Voilà. Maintenant, je termine en vous disant que, en vous encourageant, en fait, à avoir cette attitude-là de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, etc., de nous soumettre à l'autorité des Écritures. En fait, je pense que tous les croyants, non, je pense pas, c'est pas le bon mot. Je suis persuadé que tous les croyants devraient avoir une très haute vision des Écritures, de la Bible. Et j'aimerais vous encourager à cela avec l'attitude de Christ face à la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon Luc en particulier, c'est impressionnant tous ces passages qui nous montrent l'attitude de Jésus envers les Écritures de l'Ancien Testament. De voir Christ lui-même élever les Écritures comme ça, c'est magnifique, c'est un modèle par excellence pour nous. Jésus fondait tout son enseignement sur l'Ancien Testament. Là, il y a quelques textes auxquels je vais faire allusion et dans lesquels on va aussi tourner. Donc, c'est le moment d'avoir vos Bibles en main parce que je vais lire quelques passages avec vous. J'utilise évidemment la Bible Darby, mais vous pouvez me suivre dans votre version. Je vais revenir un petit peu plus tard, tout à l'heure, sur justement le phénomène de version-traduction. On va en parler quand même un peu brièvement. Mais dans Luc 24, les versets 13 à 31 et même au-delà, nous voyons le Seigneur Jésus qui traverse les principales divisions de l'Ancien Testament hébraïque. Tout à l'heure, on a parlé un peu des livres deutérocanoniques ou apocryphes. Donc, ils étaient des livres qui ne faisaient pas partie du canon hébreu. De la Bible, Ancien Testament, bien sûr, des Juifs étaient divisés en trois sections, dont les trois lettres initiales de ces sections-là forment le nom Tanakh, qui correspond à l'Ancien Testament hébreu des Juifs. Tanakh pour Torah, Neviim et Ketuvim. Donc, Torah, la loi, Neviim, pardon, les prophètes et Ketuvim, les écrits. C'est la section qui comporte plusieurs livres, dont les psaumes, qui est l'ouvrage principal, l'ouvrage majeur. Et on voit le Seigneur Jésus dans le texte de Luc 24, et puis on peut lire au verset. Je l'avais tout en tout sous les yeux. Je ne suis pas habitué avec cette Bible-là. Je suis désolé là, de chercher comme ça. Ah, voilà, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Il commence avec la Torah, il passe par les Neviim, qui incluent aussi les Kétouvim, parce que l'expression loi et prophète ensemble dans la Bible, ça veut souvent dire tout l'Ancien Testament. Alors, Jésus s'appuyait sur l'Ancien Testament, même en ce qui concerne sa propre venue, les prophéties à son égard. Et au verset 32, les disciples, là, ils disent que leur cœur brûlait, là, d'entendre le Seigneur parler des Écritures. Imaginez ce que ça devait être d'entendre le Seigneur comme ça, parler des Écritures. Au verset 44, plus loin dans le chapitre, on voit que le Seigneur parle des choses écrites de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, dans les Torah, Neviim, Ketuvim, dont les psaumes sont l'ouvrage principal, comme je disais tout à l'heure. C'est remarquable. Le Seigneur s'appuyait sur l'Ancien Testament. Regardez toujours dans Luc. D'ailleurs, tournez dans Luc 16, là, puis pendant que vous tournez, si vous lisez Luc à un moment donné, au complet, là, d'un trait, notez toutes les référence aux Écritures faites par Jésus. Regardez comment il agit envers les Écritures, comment il parle des Écritures. C'est assez impressionnant. On lit dans les versets 29 à 31, c'est la conclusion de la fameuse histoire du mauvais riche et de Lazare. Et puis franchement, là, tout le monde discute avec cette histoire-là, à savoir si, où c'était, est-ce que c'était le ciel et l'enfer ou le séjour des morts divisé en deux parties. Puis, bref, c'est quoi l'objet de cette leçon-là? Mais en réalité, elle se trouve là, dans les versets que nous allons lire. Regardez bien l'histoire. Le but, enfin, le cœur, je dirais, de l'histoire, c'est il faut que quelqu'un ressuscite des morts pour aller avertir tout le monde de ne pas venir ici, dans le lieu de tourment dont il est question dans l'histoire. Et Jésus dit, au verset 29, à ceux qui réclament une résurrection des morts, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est quoi la leçon finale, principale de l'histoire du mauvais riche et de Lazare? Écoute la Bible, écoute la parole de Dieu. Ça veut dire lis-la, porte attention à ce qu'elle dit. Tu as tout là-dedans pour avoir la vie, pour éviter d'aller dans cette place-là. Tu as tout ce qu'il faut dans l'Écriture. Qu'il les écoute. Et là, mauvais riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Donc, le Seigneur qui parle à travers les paroles d'Abraham dans l'histoire, mais qui met tout l'accent sur l'Écriture. C'est l'Écriture. Allez là, allez à cet endroit-là, vous allez à la bonne place. Vraiment, l'insistance dans ce passage-là, elle est mise sur l'importance de croire à la parole de Dieu. C'est beaucoup plus important que si quelqu'un ressuscite des morts. D'ailleurs, là, Lazare est ressuscité des morts. Regardez bien l'attitude des Juifs par la suite. Lazare, quand il est ressuscité des morts, ce qu'ils ont dit, « Oh, wow, maintenant on croit. » Non, non, on va chercher comment s'en débarrasser. Lui-ci, il nous embête un peu. Pas juste Jésus, Lazare aussi. Donc, ça prouve qu'une résurrection des morts, ce n'était pas si convaincant que ça. Mais par contre, l'Écriture, allez là dans l'Écriture, c'est la bonne place. Donc, le témoignage à l'Ancien Testament de la part de Christ est vraiment remarquable. Lisons encore dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, les versets 46 et 47. Jean 5, versets 46 et 47, et tout un débat avec les chefs religieux juifs, on trouve souvent dans cet évangile-là d'une façon particulière. « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? » Ici, le Seigneur Jésus affirme vraiment clairement qu'on devrait croire les écrits de Moïse. Il fait même un lien entre... un lien direct entre croire aux écrits de Moïse et croire à ses propres paroles. C'est puissant, ça, comme témoignage. Ça revient à dire que mettre en doute l'Ancien Testament équivaudrait à mettre en doute les paroles de Christ. Si donc nous croyons en Jésus, nous devons croire à l'Ancien Testament et y porter autant d'attention que le Seigneur Jésus lui-même y a porté attention. Il y a beaucoup d'autres passages. Matthieu 5, les versets 17 à 19, aussi, j'ai noté ici Luc 16, versets 16 et 17, ce sera dans, vous aurez accès plus tard à ces passages-là si vous voulez les lire. Matthieu 23, 35, Luc 21, 33. En fait, Jésus affirme dans tous ces passages-là que les paroles de l'Ancien Testament, dans ses moindres détails et les siennes, ne passeront point. Le ciel va passer, la terre va passer, mais pas les paroles de Dieu. Pas les paroles de l'Ancien Testament, pas les paroles de Christ. Là, tenez-vous, je sais, on me dit souvent, c'est trop vite, ralenti, je suis désolé. Il faut que j'apprenne à ralentir. Si je vais trop vite, n'hésitez pas dans la salle à me dire ou à me faire le signe. Relax. Mais là, je vais quand même y aller en rafale. Si ce n'est pas dans les notes, je vais le faire plus tard parce que c'est clair que je n'aurai pas le temps de regarder tous ces textes-là. Mais je veux vous mentionner différents domaines ou situations ou événements dans lesquels on peut remarquer une attitude exemplaire du Seigneur Jésus par rapport aux Saintes Écritures. Et en cela, ça devient un modèle pour nous. Il a réfuté le diable en citant des textes du Deutéronome. Donc, vous connaissez les passages de Matthieu 4, Luc 4 également. Il a réfuté le diable en citant des textes du Deutéronome. Puis, peut-être je devrais dire en citant correctement. Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus, mais pour faire contraste avec le diable qui, lui, a tordu l'Écriture. Jésus a débuté son ministère public en citant un passage d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth. Il a affirmé aux Sadducéens qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture. Et d'ailleurs, si vous connaissez les Sadducéens, ce n'est pas pour rien que le Seigneur va leur dire « Vous êtes grandement dans le champ », c'est-à-dire dans l'erreur. « Vous errez, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture, ça implique qu'ils ne croyaient pas à l'Écriture aussi, eh bien, ils étaient dans l'erreur. Bien sûr, ils ne croyaient pas au monde spirituel ni à la résurrection. Ils étaient vraiment dans l'erreur. Le Seigneur a fait appel aux Écritures pour justifier ses actions pendant les jours de sabbat, alors que, fondés sur leur tradition rabbinique, les chefs religieux juifs le reprenaient. Mais Jésus, lui, s'appuyait sur les textes de l'Écriture. On voit ça dans Matthieu 12. Il s'est aussi appuyé sur l'Ancien Testament lors de la purification du Temple. Lorsqu'il est entré en triomphe à Jérusalem, Jésus s'est appuyé sur l'Écriture. Il a déclaré qu'il devait souffrir selon les prophéties faites à son sujet dans les Écritures. Il a rappelé la prédiction de l'Ancien Testament à propos du traître Judas. Le Seigneur s'est même abstenu de faire appel à l'aide des anges, simplement parce qu'il voulait que l'Écriture soit accomplie. On peut dire, sans l'ombre d'un doute, que dans tout son ministère public, dans toute sa vie, Jésus s'est soumis aux Écritures de l'Ancien Testament. Et en terminant sur ce point, nous devons remarquer que le Seigneur a confirmé l'historicité et la véracité de plusieurs événements de l'Ancien Testament qui sont parfois remis en doute par certains critiques de la Bible, c'est-à-dire la création, l'arche de Noé, Jonas dans le grand poisson et même la femme de Lot. Des événements qui sont parfois ridiculisés par des grands savants de ce monde. Jésus, lui, les mentionne comme étant des faits historiques, réels, authentiques, cités par la parole de Dieu. Ça montre toute son attitude à l'égard des Écritures. J'ai voulu que, même juste, évidemment, dans les Évangiles, parce que c'est là qu'on voit particulièrement le Seigneur agir et parler, mais j'ai voulu, avec cette liste de références que vous avez dans le PowerPoint, relever l'attitude de Christ et sa vision si élevée des Écritures, et il ne peut pas en être différent aussi pour nous. Ça nous amène maintenant à parler de la fiabilité de la Bible. 20 siècles plus tard, c'est-à-dire 20 siècles après la fin de la rédaction de la Bible. Je pense qu'on est d'accord à dire qu'on croit tous que la Bible, elle a été donnée au départ en hébreu, en araméen et en grec, tel qu'on voit les caractères avec le terme Yahweh en hébreu, Ella en araméen et Theos en grec. On est tous d'accord pour dire, bon, oui, c'est vrai, Dieu a vraiment donné sa parole au départ dans ces langues-là. Dieu nous a donné sa révélation. On a parlé d'inspiration tout à l'heure. C'est à travers des mots hébreux, araméens et grecs que Dieu a donné sa parole. Mais nos Bibles aujourd'hui, est-ce qu'elles sont fiables? Avons-nous vraiment le même texte qu'au départ? Peut-on non seulement se fier à une traduction de la Bible en français, en l'occurrence, puisque c'est notre monde à nous, mais est-ce qu'on peut la considérer comme étant la parole de Dieu? Est-ce que la Bible Darby, je répète, la Bible Darby est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible Second est la parole de Dieu? Ou, pour faire contraste avec le mouvement des traducteurs solitaires du 19e siècle aujourd'hui, on est plutôt en comité. Est-ce que la Bible du Semeur est la parole de Dieu? Comment on pourrait répondre à cette question-là? Comment une Bible traduite par un Anglais du 19e siècle, Darby, ou un Suisse de la même époque, Second, peut-elle être reçue comme étant la parole de Dieu? Sont probablement les deux Bibles dans nos milieux que nous connaissons et utilisons le plus. Ou, comme je mentionnais tout à l'heure, ces Bibles qui sont produites par des comités d'experts, est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est toujours la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on devrait uniquement revenir à l'hébreu, l'araméen et le grec? Eh bien, c'est vrai que la Bible a été donnée dans ses langues originales et la langue hébraïque domine l'Ancien Testament avec seulement quelques passages dans les trois divisions principales, par contre, mais on a des textes en araméen aussi, quelques-uns. C'est une langue qui est hyper proche de l'hébreu. Et pour ce qui est du grec du Nouveau Testament, c'est tout le Nouveau Testament qui a été rédigé en grec koiné. C'est un mot qui signifie « commun » parce que c'était le grec utilisé par la plupart des gens de l'époque, contrairement aux Grecs qui étaient plus sophistiqués des philosophes et du monde intellectuel en général, ce qu'on appelle souvent le grec classique. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit dans un grec classique. Il a été écrit dans un grec plutôt commun, ordinaire, si je peux dire. Mais ça ne signifie pas que ça manque de profondeur ou de clarté. Au contraire, les textes du Nouveau Testament sont hyper riches d'un point de vue grammatical, au point de vue de la syntaxe. Le grec, c'est très compliqué. Et la profondeur du texte hébraïque, ce n'est pas dans sa grammaire et sa syntaxe, c'est hyper simple. Mais par contre, dans la poésie hébraïque, on tombe à un autre niveau. Et ça, c'est plutôt difficile. Donc, on se retrouve avec une Bible inspirée par Dieu, poussée dans les langues hébraïques, araméennes et grecques. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, des généraux grecs qui sont issus de l'empire d'Alexandre le Grand, son empire a éclaté principalement en quatre grandes régions. Et donc, il y a eu des généraux grecs qui se sont partagés ces régions-là, donc, et qui dominaient le monde biblique de l'époque, autant d'un point de vue politique que géographique. Et en Égypte, la dynastie régnante avait été fondée par Ptolémée Sauter. Donc, vous avez ça dans le PowerPoint et vos notes de cours. C'était un des généraux de l'armée d'Alexandre le Grand. Son successeur, Ptolémée II Philadelphe, il est à l'origine de l'une des toutes premières traductions de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la version dite des Septante. Elle est souvent abrégée avec le chiffre romain tel qu'on le voit là, LXX pour Septante. Et la Septante, d'après la légende principale, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, c'est une traduction qui aurait été produite par Septante ou Septante-deux, on n'est pas d'accord là-dessus même, scribe juif entre 280 et 150 avant Jésus-Christ. Cette traduction grecque de l'Ancien Testament devait faire partie de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde antique. À l'époque du Seigneur Jésus et des apôtres, on connaissait le texte hébraïque et araméen de l'Ancien Testament, mais on était aussi très familier avec le texte de la Septante. D'une manière générale, écoutez bien ce qui suit. Quand les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament, qui, je le rappelle, a été rédigé originalement en hébreu et en araméen, eh bien, trois fois sur quatre, quand les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien, c'est la Septante qu'ils citent. Et pas le texte original en hébreu et en araméen. Il cite de préférence la traduction grecque des Septante. C'est la raison pour laquelle on a souvent dit que la Septante était la Bible de Jésus et des apôtres. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Vers la fin du 4e siècle, début 5e, le père de l'Église, Augustin, a écrit dans son ouvrage « La cité de Dieu » que, et c'est, vous allez le voir là, mais je vais le dire différemment, que la plupart des chrétiens de langue grecque ne savaient même pas s'il existait une autre parole de Dieu que la Septante. C'est spécial, ça, là. La majorité, la plupart des chrétiens, 4e, 5e siècle, des chrétiens de culture grecque qui continuaient encore ne savaient même pas qu'il y avait une autre Bible quelque part autrement que la Septante en grec. C'est bien ce que Augustin dit. L'Église a reçu la version des Septante comme si elle était seule, en sorte que la plupart des Grecs chrétiens ne savent pas même s'il y en a d'autres. Wow! OK. C'est donc pas surprenant que trois des plus anciens codex, un codex, c'est une forme très ancienne, probablement même la forme originale d'un livre, eh bien, les trois plus anciens codex contiennent l'Ancien Testament de la Septante avec le texte grec du Nouveau Testament. Autrement dit, ils ont une Bible en grec au complet. Les codex Sinaiticus, Alexandrinus et Vaticanus, qui sont tous du 4e, 5e siècle. C'est en grec, avec un Ancien Testament en grec. Donc, conclusion à juste ce petit bout-là maintenant, on peut clairement dire que la Bible de Jésus, que la Bible des apôtres et que la Bible des premiers chrétiens sur une période de près de 4 siècles était une traduction, du moins pour l'Ancien Testament. Voyez-vous venir avec ma question du départ? Jésus considérait une traduction comme la parole de Dieu. Il n'a jamais dit, en citant la Septante, en passant, c'est une traduction, mais le texte original, vous irez voir, vous allez avoir accès à plus la parole de Dieu. Je ne l'ai pas vu dire ça. Et il cite le texte comme étant la parole de Dieu, point final. Et les apôtres font aussi la même chose. Ensuite, sur une période d'environ 1000 ans, soit de 400 à 1400 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, la Bible de l'Église dans son ensemble, ça va être encore une traduction. Pendant 1000 ans, ça va être encore une traduction. Et cette fois en latin, cette fameuse Bible dite Vulgate, publiée par Jérôme en 405 après Jésus-Christ. Jérôme, père de l'Église. Wow! J'ai eu le privilège un jour de descendre dans la grotte où il a fait ce travail. C'est en dessous de l'église de la Nativité à Bethléem. C'était remarquable, c'était super impressionnant. Bon, maintenant là, je suis conscient que j'étais assez pratique dans le début, puis là, je suis tombé comme dans la théorie extrême peut-être pour certains, je suis désolé. Mais si tout ce que je vous ai partagé là peut vous sembler très théorique, en réalité, c'est une question des plus pratiques que je viens de faire. Nous nous sommes demandé au départ si nos Bibles aujourd'hui étaient fiables, dans ce sens de pouvoir les considérer comme étant vraiment la parole de Dieu, tout en sachant que c'est une traduction d'un anglais ou d'un suisse ou d'un comité des derniers siècles. Eh bien, l'attitude de Jésus, l'attitude des apôtres, de même que de l'Église primitive dans son ensemble vis-à-vis la Septante, de même que l'attitude de l'Église en général durant tout le Moyen Âge à l'égard de la Vulgate répond très clairement dans l'affirmative à cette question-là. Avez-vous vraiment la parole de Dieu dans les mains? Toute l'Église vous dit oui. Ne vous inquiétez pas. Vous lisez qu'en français? Vous pouvez lire la parole de Dieu en français. Vous lisez la parole de Dieu, même si c'est une traduction. Moi, je trouve que ça, c'est trop important. Je pense que ceux qui gravitent, j'en fais partie, là. Vous comprenez, j'ai fait une maîtrise en langue biblique, j'ai passé ma vie dans les études académiques, mais je pense qu'on est trop à un niveau qui flotte. À un moment donné, là, regarde, l'Église dans son ensemble a besoin de savoir quelque chose. Vous ne connaissez pas le grec, l'hébreu, l'araméen? Pas grave. Vous avez accès à la parole de Dieu. Il y a des outils pour pallier au manque de connaissances du texte original qui, certainement, est un enrichissement extraordinaire. C'est vrai, un beau privilège. Mais comme c'est presque exclusif à quelques-uns seulement, il faut dire que l'ensemble des croyants sont encouragés à lire leur Bible dans leur langue en considérant cela comme étant la parole de Dieu, puisqu'elle est la parole de Dieu. Jésus vous dit, faites-le, je l'ai fait. Les apôtres vous disent, faites-le, je l'ai fait. Nous l'avons fait. Même chose pour toute l'histoire de l'Église. Franchement, ce serait prétentieux de dire, il n'y a que nous qui sommes revenus au texte original maintenant et qui les étudions, qui avons accès à la Bible. Je suis désolé, mais Christ a bâti son Église pendant plus de 15 siècles sans que l'ensemble des croyants ait eu accès aux langues originales. S'il vous plaît, considérez ça, c'est trop important. Puis il faut pas que ça soit négligé davantage. Ça l'est trop. Ça l'est trop. Bien entendu, il y a des choses qu'il faut porter attention dans tout ça. C'est notre privilège. On a accès à la parole de Dieu. J'espère avoir été clair là-dessus. Maintenant, il faut qu'on tienne compte des théories de traduction quand on lit notre Bible. C'est vrai, il y a toute une différence entre une Bible d'Arbi et une Bible du Sommeur, de par les principes même qui ont été utilisés pour traduire les textes. Le traducteur ou les équipes de traduction Ils ont une approche pour traduire les textes. Il y en a qui ont adopté ce qu'on peut appeler l'approche essentiellement littérale. Littérale, formelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire ça. C'est impossible. Mais essentiellement littéral, c'est qu'on cherche le plus possible à rendre mot pour mot le texte. Là-dessus, ceux qui me connaissent vont dire « Oh, il a évolué le gars, là. » Ben, merci Seigneur, j'apprends. Puis c'est vrai que j'ai déjà été beaucoup plus drastique sur le fait de « Non, littéral, mot pour mot, puis paf, tchac, tchac, tchac. » Mais ça se fait pas. Je viens de traduire le Nouveau Testament au complet, puis je me rends compte que sinon, ça se fait pas. Ça se fait juste pas. Il y a même des mots qu'on peut même pas traduire, autant en hébreu qu'en grec. Et pourtant, ils sont nécessaires, sont là, sont dans le texte, mais on le rend d'une autre façon, tout simplement. Mais essentiellement littéral, on essaie autant que possible de rendre le texte comme un miroir. On essaie autant que possible. L'équivalence dynamique est une autre approche qui est fondée sur la volonté de rendre le texte, le sens du texte plutôt que les mots. Donc, on va plutôt regarder du côté du sens du texte. Même dans l'approche littérale, on fait ça aussi. C'est évident. On n'a pas le choix parce qu'il y a des figures de style, il y a des formes de langage, on est obligé de considérer ça aussi. Mais parfois, dans l'équivalence dynamique, on va un peu plus loin, on cherche des équivalents modernes pour certains termes et on va s'éloigner des mots bibliques comme « drachme » et des choses comme ça. Puis on va prendre un mot qui peut correspondre le plus à ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas un problème, ça. La Septante était probablement une traduction littéral ou essentiellement littéral, mais j'ai déjà noté certains efforts d'équivalence dynamique. Ils connaissaient ça, le principe, à l'époque aussi. Ils essayaient de rendre parfois le sens d'un passage et ils l'interprétaient, puis parfois on pourrait même aller en discutant. Mais c'était la Bible de Jésus et des apôtres quand même. Ils le considéraient comme étant la parole de Dieu. Il y a des traductions libres qui vont plutôt offrir une sorte de paraphrase ou un texte simplifié. Je pense que c'est la parole de vie, je pense, de 2017, qui utilise seulement 3000 mots français en tout et partout. Donc, les phrases sont hyper simples, très, très courtes. Le temps est toujours soit au présent ou au futur, mais il y a presque pas d'autre mode que l'indicatif, peut-être l'impératif, là, mais c'est vraiment très, 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 très simplifié. Paraphrase ou texte simplifié. Donc, ce qui fait la différence en réalité entre ces trois théories-là, c'est le niveau d'interprétation. Plus tu t'en vas vers libre, ben, plus le niveau d'interprétation monte, c'est évident. Tandis qu'avec littéral, il y en a un niveau d'interprétation, c'est clair, mais il est probablement moindre qu'avec l'équivalence dynamique ou dans les traductions libres. Si nous avons accès à plusieurs versions de la Bible, nous pouvons comparer le texte. Et ça va nous permettre de découvrir la dimension du texte original. Et c'est aussi une excellente manière de réfléchir au sens possible d'un passage. On va prendre un exemple. Vous le voyez, c'est Colossiens 4, verset 6, où là, je vous l'ai affiché. Bon, pardonnez-moi parce que là, je pense que c'est écrit un peu petit, mais il fallait que ça entre. Et je voulais surtout qu'on le voit tout de suite en parallèle, là, un au-dessus de l'autre. Eh bien, on voit avec Darby, JND, John Nelson Darby, le verset qui nous dit que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce. Et là, Darby lui-même, qui traduit littéralement, a rajouté des mots, parce que s'il avait traduit littéralement, point final, de façon formelle, ça aurait été plutôt que votre parole soit toujours dans grâce. Parce que les mots « un esprit de » ne sont pas dans le texte grec. Mais Darby les a mis parce qu'il s'est dit « ça n'a pas de sens en français ». Ah, tiens, Darby interprète. Eh oui, tous les traducteurs font ça. C'est inévitable. Donc, il les met en crochet, par contre, pour indiquer si ce n'est pas dans les textes originaux. « Assaisonnez de sel afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Donc, techniquement, c'est vraiment un miroir du texte original. Darby est réputé pour être le plus près du texte grec dans sa traduction, tout en étant quand même compréhensible. Mais dans cet exemple-là, c'était bien parce qu'on pouvait noter qu'il a été obligé d'ajouter des termes pour qu'on puisse saisir quelque chose du passage. Le texte original, là, il est vraiment juste comme ça, dans grâce. Ça pourrait être traduit avec grâce, une parole gracieuse, etc. Donc, on le voit d'ailleurs en comparant les autres traductions où on parle dans la seconde NEG, ça se ressemble beaucoup. la nouvelle édition de Genève. Toujours accompagné de grâce à ses honnêtes afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est pratiquement le même texte que Darby, à quelques différences minimes. Là. Dans la seconde 21, que votre parole soit toujours pleine de grâce à ses honnêtes afin que vous sachiez à nouveau. Même chose. Ça dit pratiquement la même chose. On arrive avec la Bible en français courant de 97. En passant, je préfère celle-là à la nouvelle français courant qui est juste en dessous. En général, mais c'est intéressant quand même que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Oh, OK, là, on vient de te dire qu'est-ce que ça veut dire, grâce. Vous voyez le point? Le niveau d'interprétation vient de monter un peu, là. La Bible en français courant, là, c'est un mélange intéressant de deux théories de traduction, littérale et dynamique. Et c'est incroyable comment parfois ça peut être le miroir du texte grec, puis parfois le niveau d'interprétation monte. Mais vraiment. Là, ici, on exprime pratiquement c'est quoi la grâce. On lui donne un sens, c'est d'être agréable, plein d'intérêt. La fin du verset, même chose. Nouvel français courant, ils ont changé plein d'intérêt pour pertinente. C'est quand même des sens différents, ça. Donc, ils ont réinterprété différemment un peu. On change ça un tout petit peu. Empreinte de la grâce de Dieu dans la Bible du semeur est pleine de saveur. Ça, c'est assaisonné de sel. C'est un idiome. On s'est dit, bon, le sel ici, c'est son aspect saveur. Oui, mais le sel servait de préservation aussi. Et là, dans la saveur, on n'a pas préservation. On a pris une décision pour... Selon moi, là, je ne suis pas un expert comme eux, puis je ne suis pas en train d'essayer de faire mon juge, là. Mais j'essaie de comprendre leur décision, tout simplement. Et ça me semble, oui, une décision par rapport à un sens dans l'aspect de sel de cette époque. Bref, voyez-vous comment c'est intéressant de comparer les versions de Bible en français? Ça peut nous suggérer une compréhension, comment on devrait interpréter, comment on devrait comprendre le texte, etc. Bien sûr, même si vous avez accès au texte original, vous allez être confronté aux questions d'interprétation qui ont amené des traducteurs professionnels et des comités à prendre des décisions. On n'a pas le choix, parce que le grec, il est comme ça, il est tellement riche. Est-ce que « dalia » signifie lâcheté, crainte, timidité, peur? Selon notre caractère en tant que traducteur, moi, j'aime beaucoup lâcheté. Second, lui, il a traduit par un esprit de timidité dans Timothée. Hein. Je pense que c'est dans 2 Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ou un esprit de crainte. Ou un esprit de lâcheté, de paresse. Ah, ça vient me chercher parce que je suis un gars dynamique puis j'aime pas ça, la paresse, je déteste ça. Donc, ça vient me chercher plus. Fait que, si je traduis ce texte-là, peut-être que dans... mon caractère, lâcheté. Et ce sera juste parce que c'est un des sens qui nous est proposé par les meilleurs lexiques grecs français au monde. Alors, si j'ai voulu vous mentionner ça dans une étude de bibliologie, probablement qu'il y a des étudiants présentement qui se disent « Quel genre de cours de doctrine que c'est ça? » Bien, ça, c'est un cours de doctrine qui prend la doctrine puis qui la met dans la vie de tous les jours. À tous les jours, vous allez lire vos Bibles. Et je souhaiterais et je prie que chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous soyez pleinement convaincus que c'est la parole de Dieu que vous avez dans vos mains, que vous priez avant de la lire, que vous remerciez Dieu pendant et après la lecture parce que vous avez accès à sa parole dans votre langue en tenant compte de toute cette richesse devant la panoplie de versions qui existent avec toutes ces théories de traduction qui sont pour nous une bénédiction. Parce que ça nous amène une variété de textes qui est très intéressante. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais probablement que le français est l'une des langues, sinon la langue la plus bénie pour ce qui est de la traduction de la Bible. C'est hallucinant le nombre de versions qui ont été faites, les efforts de traduction, soit partiels ou complets, de l'Ancien, du Nouveau Testament ou d'un seul livre, par exemple. C'est hallucinant la quantité qui existe en français. On n'a pas accès à tout, mais si on peut avoir accès à tout, on est richement béni. C'est assez extraordinaire. Donc, en conclusion, c'est évident, vous l'avez sûrement remarqué, surtout ceux qui sont d'un niveau académique, peut-être qui aiment le niveau universitaire, tout ça, vous avez sûrement remarqué que certains sujets connexes à l'étude de la Bible ou de la bibliologie que nous n'avons pas examiné en détail ensemble ce soir. Le temps était limité, mais c'est vrai qu'on aurait pu parler, entre autres, ce que vous voyez là, de la canonicité des Écritures, c'est-à-dire quels sont les livres qui devraient être reconnus comme inspirés de Dieu? On a effleuré ça dans une question, mais comment on déterminait s'ils devaient faire partie de la Bible? Autrement dit, quels étaient les critères de canonicité? Qui a décidé d'inclure ou non les ouvrages disponibles? On n'a pas parlé non plus de la paternité de chacun des livres de la Bible. Qui en sont les auteurs? Surtout qu'il y a des questions controversées par rapport à ça. Bon, il n'y a aucune question controversée dans la Bible. Elle est controversée parmi les hommes de haut savoir, apparemment. La copie et la transmission des manuscrits à travers les siècles. Alors, c'est un phénomène miraculeux. Vous réalisez que si on faisait une dictée tout de suite, de 50 mots, pas plus, avec tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans la salle, je lis un texte, 50 mots, vous l'écrivez. Pensez-vous qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreurs? C'est un miracle que l'on ait reçu à travers 15 siècles de copies manuelles à la main. L'imprimerie a beaucoup aidé par la suite, mais même dans l'imprimerie, on a fait plusieurs erreurs majeures. Eh bien, c'est un miracle de Dieu que la transmission de la Bible. On n'en a pas parlé en détail ce soir, mais Dieu a gardé ce phénomène-là parce qu'on a la Bible, le texte de la Bible, il est clair entre nos mains. L'étude des variantes textuelles dans les manuscrits, oh, il y en a beaucoup, des différences, un « nous » plutôt qu'un « vous » ici. Des fois, c'est un verset complet qui n'est pas là dans certaines versions, il est dans d'autres. Parfois, c'est Jésus tout court, dans d'autres versions, notre Seigneur Jésus-Christ, comme on faisait dans le Moyen-Âge, hein, pour que le monde dise « Amen » à la fin d'un texte liturgique. On n'a pas parlé de ça. On a laissé ça de côté. Mais ce soir, nous avons décidé de porter une attention particulière à la question de l'inspiration des Saintes Écritures, incluant leur autorité et leur suffisance, et nous avons décidé de parler et d'insister sur la fiabilité d'une traduction comme étant la parole de Dieu. Pour moi, c'était primordial d'aborder ça comme ça, puisque c'est sur la Bible qu'on va s'appuyer pour tout ce qui va suivre, dans ce qu'on va mentionner comme étant les fondements de la foi chrétienne. Si vous voulez aller plus loin dans les sujets que je viens de mentionner, là, qui sont dans le PowerPoint présentement, je vous propose trois ressources que je vous recommande chaudement. L'inspiration et l'autorité de la Bible du frère Pache, extraordinaire. Ce livre-là est même traduit dans plusieurs langues et utilisé à l'heure où on se parle dans les meilleurs séminaires au monde. L'histoire merveilleuse de la transmission de la Bible par le frère Remers. C'est qu'une brochure, mais remarquablement faite. Et le chapitre 2 de l'ouvrage Théologie systématique, édité par John MacArthur et tout le groupe là, de Master's Seminary à Los Angeles, en Californie. C'est le chapitre qui parle de bibliologie. Il est saint doctrinalement, ce chapitre-là, vraiment solide. Et je vous encourage à lire. On l'a remis aux étudiants de Biblos il y a quelques années, pour ceux qui ont eu le privilège de le recevoir. La Bible, c'est la parole de Dieu, on l'a dit. On a l'immense privilège d'y avoir accès dans notre langue. C'est un livre vivant. Et comme on va le voir dans les prochaines leçons, c'est sur elle que repose tout ce que nous croyons. Moi, je ne veux pas être légaliste, frères et sœurs, mais je considère comme une terrible négligence de ne pas lire la Bible à tous les jours. Je ne veux pas être légaliste en disant ça. Je veux simplement vous encourager à lire les Écritures et que le Seigneur nous donne un engagement sérieux à le faire, à étudier la Bible et aussi, bien sûr, à l'appliquer dans nos vies. Je termine avec un mot de prière, ensuite les questions. Seigneur, merci pour ce livre magnifique, merveilleux, vivant, autoritaire, inhérent. Il n'y a pas d'erreur dans ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole éternelle que tu nous as donnée dans notre langue. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons pu regarder ce soir. On t'implore, Père, de nous aider à mettre en pratique les Écritures dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen.
Merci, Gilles, pour ton exposé animé. Plus ça arrivait vers la fin, plus la tension montait. On a senti toute ta passion, c'est magnifique.
Ouais.
Et puis, écoute, peut-être, je pense qu'il y a une question qui est bien peut-être d'approfondir. Tu as parlé de trois styles de traduction, donc les traductions littérales. Tu as mentionné la Darby, la seconde. Tu as parlé aussi des traductions à équivalence dynamique, mais également des traductions dites libres. Est-ce que tu pourrais, j'imagine que tout le monde n'est pas au courant quelle traduction est à classer où. Est-ce que tu pourrais juste dire un mot des principales traductions françaises et où tu les classes?
Je pense qu'on a déjà ça sur le site de Biblos dans les ouvrages recommandés, mais je ne suis pas certain à 100%. Mais parce que ça pourrait être une très longue réponse. Je pourrais peut-être le faire plus par écrit.
D'accord, merci. Et puis, puisqu'on est sur les traductions, tu as mentionné les traductions littérales. Et puis, il y a une traduction dont on n'entend peut-être pas forcément toujours parler, mais qui est aussi reconnue comme étant littérale. Et il y a un des auditeurs qui demande qu'est-ce que tu en penses, c'est celle d'André Chouraqui.
En tout cas, il a eu un accueil assez important dans les milieux académiques, c'est-à-dire là, ceux qui vont étudier les textes, qui peuvent critiquer sa traduction parce qu'elle est très particulière. Il donne une saveur très juive à sa traduction, en particulier dans le Nouveau Testament, qu'on le ressent encore plus avec certains termes. Je me demande si les disciples, ce n'est pas des Talmudim, là, ou quelque chose comme ça, mais alors, il utilise des termes juifs pour faire sa traduction. Moi, je l'ai lu, mais sans faire une étude. J'ai lu quelques passages dedans. Je la connais pas assez pour avoir une opinion exhaustive là-dessus. Mais je dirais simplement que de la lire comme avec un certain intérêt. Mais je ne saurais pas la recommander parce qu'elle a été aussi hautement critiquée.
Merci pour cette réponse. Et puis, deux questions sur le Nouveau Testament. Alors, il y a une des personnes qui dit, il y a des croyants qui affirment que le Nouveau Testament a d'abord été écrit en araméen et ensuite traduit en grec. Que faut-il en penser? Il y a une deuxième personne qui dit quelque chose d'un petit peu différent. Certains affirment que le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, puis traduit en grec. De nouveau, notamment l'évangile de Matthieu. Qu'en pense Gilles?
Ah, il n'y a pas tellement d'évidence pour ça, mais de toute façon, ce que l'on doit retenir, c'est ce que nous avons comme témoin textuel du Nouveau Testament, et c'est vraiment le grec. Franchement, ce n'est pas une question qui va intéresser la majorité des auditeurs, mais je reviens au fait que le texte écrit est celui qui est important. Au départ, a-t-il été écrit dans une autre langue que le grec? Il n'y a pas d'évidence pour confirmer ça. Il y a quelques citations de pères de l'Église qui sont même citées par d'autres. Je pense à l'occurrence à Papias, il me semble, qui mentionne que Matthieu avait été rédigé au départ en hébreu pour un certain groupe appelé les Ébonites. Mais là, je fais peut-être erreur. J'essaie de recenser tous mes souvenirs. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a aucune importance. Même, franchement, je vais aller plus loin. Jésus a probablement parlé en araméen. C'était la langue commune du peuple en Israël. C'était la langue de tous les jours. Il ne parlait pas en grec, mais en araméen. Alors, ce que Jésus a dit en araméen, je vais le répéter, ce que Jésus a dit en araméen n'a aucune importance pour nous. Aucune. Là où c'est important pour nous, c'est ce qui est dit dans le texte original grec écrit. L'inspiration, c'est dans la rédaction. Pas dans ce que Jésus disait en araméen ou dans une autre langue ou ce que d'autres auraient pu même dire. C'est ce qui a été mis par écrit. C'est là que le phénomène de l'inspiration se passe et c'est ça qui est la parole de Dieu qui nous a été transmise. Donc, si nous voulons étudier la parole de Dieu dans les langues originales, on étudie le Nouveau Testament en grec tel qu'il nous a été donné et transmis.
Merci beaucoup, Gilles, pour cette dernière réponse. Et puis, on va passer à la conclusion.
Voilà. Alors, un immense merci, Gilles, pour nous avoir fait vivre cette parole. Merci aussi à Nathanaël, qui a procédé au suivi des questions. La Bible est un livre formidable, n'est-ce pas? J'en suis convaincu et chaque fois que je la lis, je découvre et comprends de nouveaux aspects. Dieu me montre d'autres éclairages, d'autres angles de vision qui me font avancer dans la compréhension de sa révélation. Nous pouvons remercier Dieu pour sa parole vivante, et c'est vital de la lire chaque jour. Après ces moments riches en enseignements et bénis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée ou une bonne nuit, selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. À bientôt.